La vie des idées avec Mathieu Bock-Côté.
Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. Cette émission, vous le savez, est consacrée aux grands débats d'idées qui traversent notre société. Nous cherchons à comprendre quelles sont les grandes querelles qui façonnent notre temps, qui le modèlent, mais nous cherchons aussi à voir comment la vie des idées, en soi, permet de mieux comprendre la vie publique. Je reçois aujourd'hui une figure bien singulière de la vie publique québécoise. On pourrait dire de lui qu'il a mené une vie intellectuelle au cœur de la vie politique ou qu'il a mené sa vie intellectuelle à la manière d'une vie politique. Auteur de nombreux ouvrages et parmi ceux-là de plusieurs classiques de notre littérature politique comme « Dans l'œil de l'aigle »,« Le tricheur » ou « Le naufrageur », il a fait le saut en politique une première fois en 1994 pour conseiller Jacques Parizeau et une deuxième fois en 2012 pour devenir député du Parti québécois. Il y a quelques mois, à l'automne 2015, il devenait chef du Parti québécois. Vous l'aurez compris, je reçois aujourd'hui Jean-François Lisée. Jean-François Lisée, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Alors, dans l'émission d'aujourd'hui, je vous proposerai une discussion en deux grands thèmes. La première partie sur votre vie intellectuelle, les grands auteurs qui vous ont marqué, les événements politiques qui vous inspirent, les grandes figures politiques qui vous inspirent. Et dans la deuxième partie, une réflexion sur votre vision du Québec, sur votre lecture de l'histoire du Québec, sur la conjoncture où en sommes-nous aujourd'hui comme peuple. Alors, je me permets une première question toute simple. Pendant des années, on vous a connu à la manière d'un intellectuel au cœur de la vie publique, d'un journaliste qui n'était jamais trop loin du pouvoir sans franchir nécessairement, sauf pendant la période où vous avez conseillé de 94 à 2000, je crois, ou à,
oui, de, 99,
à 99. Oui. Est-ce que la politique était une destination naturelle pour vous? Est-ce que la vie intellectuelle était une préparation à la vie politique? Est-ce que toujours vous y étiez destiné d'une manière ou de l'autre?
J'ai des amis de secondaire qui me disent m'avoir entendu dire que je voulais être en politique ou premier ministre. Moi, je me souviens pas de ça. Ce qui m'intéressait, c'était d'être journaliste. Je voulais être journaliste, je voulais être correspondant étranger. J'avais de la curiosité, je voulais aller dans le monde entier. Est-ce que c'était Tintin? Est-ce que c'était Bob Moran? Est-ce que c'était un peu des deux? C'était la curiosité, la volonté de voyager, la volonté de tout voir, tout toucher, tout comprendre, tout visiter. C'était le premier ressort, disons, de mon activité. Et ce qui fait que j'ai quitté un emploi presque de fonctionnaire de l'information, c'est-à-dire à la presse canadienne où j'étais permanent. Et pour sauter dans le vide, devenir pigiste en France, des vieux collègues ne comprenaient pas pourquoi. Je me suis mis à risque plusieurs fois parce que je voulais être témoin de l'histoire aux États-Unis, suivre une campagne présidentielle, écrire sur la CIA, écrire sur le mouvement féministe, aller dans le Sud, écrire sur l'esclavage, sur la discrimination, tout ça, ça faisait... Est-ce que j'étais dans les pas de René Lévesque ou de d'autres grands... J'ai beaucoup lu sur Albert Londres, Joseph Kessel, les grands journalistes d'enquête français et américains, bien sûr. Ben, c'était l'époque de All the President's Men, Bernstein et Woodward. On voulait faire comme eux, on voulait découvrir le grand scandale. Bon, c'était grisant et c'était ça qui était mon principal ressort. Évidemment, j'étais indépendantiste. Je l'avais été assez jeune. J'avais pris ma carte du Parti québécois illégalement lorsque j'avais 14 ans, parce que c'est 16 ans. Mais à l'époque, les ordinateurs n'avaient pas fait les bons croisements. J'étais à Tetron Mines, ma ville natale qui m'a vu grandir. J'étais déjà dans l'exécutif du Parti québécois. Et après ce séjour à l'étranger, quand je suis revenu, je voulais couvrir des grands événements de l'histoire et après la France et les États-Unis, je voulais me rendre en Argentine, puis ensuite à Hong Kong pour le passage de Hong Kong du giron britannique à la Chine, c'est en 97. Mais au moment où j'étais de passage au Québec après 8 ans à l'étranger, l'histoire se faisait ici,
oui.
C'est-à-dire la mort de Meech, la possibilité de l'indépendance. Et là, bon, c'est ce fil indépendantiste qui m'a repris. Donc, j'ai voulu écrire cette histoire-là ici. Et lorsque M. Parizeau s'est présenté à l'élection de 94, je ne voulais plus être spectateur, je voulais être acteur. Et donc, je suis entré en politique par la porte du conseiller. Parce que j'avais beaucoup écrit sur les conseillers politiques, m'avait intéressé. Et je me suis dit, peut-être avec un peu de pratique, je pourrais faire ça. Mais ce n'était pas du tout dans le but de devenir député, ministre, chef du parti. C'est venu beaucoup plus tard.
L'idée, néanmoins, donc vous dites que l'idée vient plus tard. En 94, c'est votre premier passage. Vous écrivez des notes, vous écrivez des discours aussi de M. Parizeau. Vous écrivez ceux de Lucien Bouchard. À quel moment, cela dit, vous dites-vous que vous ne pourrez plus vous contenter de conseiller, d'écrire pour les autres et que les discours que vous écrivez, vous devrez les prononcer aussi?
C'est pas ce que je me dis. En fait, il y a un moment où je trouvais que, après 5 ans, d'abord, je trouvais que la souveraineté n'était pas à portée de la main. J'étais en désaccord avec la stratégie qui pensais-je, ne nous y conduisait pas. J'en avais proposé une autre. Elle n'avait pas été...
En sortie de secours.
Ben, d'abord, j'avais fait à l'interne. Elle n'avait pas été reprise. Et je sentais que ma personnalité était en train de disparaître parce que c'était pas ce que je voulais qu'il arrive. Il fallait que je me conforme, évidemment, aux décideurs, qui étaient M. Bouchard, puis... J'avais un malaise que ma personnalité était en train de... Je me niais moi-même, alors il fallait que je me libère. Et je pense que donc après 5 ans de conseil politique, je suis allé ailleurs. Et il y a un moment où je savais pas où j'allais. Et donc j'avais 40 ans et je me suis dit, bon, ben c'est le temps de faire une deuxième carrière. Est-ce que... quand j'étais jeune, un de mes goûts, c'était d'être architecte. Alors, j'ai même regardé, j'ai parlé à des amis architectes. Moi, si je voulais être architecte, j'avais mon premier enfant, si je voulais faire de la pédagogie. Puis finalement, ben, c'est l'autre aspect de mon intérêt journalistique qui était pour les sciences sociales, pour le progrès social. Où là, je me suis dit, non, je vais plutôt m'investir dans les politiques sociales, voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Et dans ma formation intellectuelle, je dois dire que quand j'étais aux États-Unis, j'étais très intéressé par le pragmatisme social. Comment faire en sorte que, à l'intérieur d'un capitalisme qui est débridé, qui est destructeur, on peut quand même provoquer un progrès social réel, pragmatique. Et c'est ce que je voulais creuser. Et là, pendant quelques années, comme chercheur invité à Sciences Po Paris, puis ensuite au Cerium, bon, je me suis attaché à ces choses-là.
Avec le site politiquesociales.net notamment.
Exact. Alors, l'Internet était relativement nouveau et il n'existait pas un site où on pouvait suivre les principales publications sur les progrès des politiques sociales. Donc, on a inventé ce site politiquesociales.net qui n'existe plus maintenant, mais qui pendant 5 ans a été le principal site de l'actualité des politiques sociales en francophonie dans le monde.
Alors là, vous revenez néanmoins, je vous conduis à la politique. 2012, vous décidez de faire le saut, ouais, avec l'idée que nous sommes-nous quand vous vous lancez en politique, parce que au début des années 90, on sentait que le vent de l'histoire était avec les souverainistes, on sentait que l'histoire universelle se passait chez nous pour une fois, ce qui est assez étonnant d'un point de vue québécois. Et là, 2012, vous vous lancez dans un contexte qui est aussi agité, hein, la crise étudiante, le printemps érable, mais une période qui n'est pas très favorable aux indépendantistes, du moins la conjoncture ne laissait pas deviner un référendum imminent. Donc, qu'est-ce qui vous conduit à faire le saut en 2012, alors que la cause de votre vie, disons, n'est plus à l'ordre du jour pour le commun des Québécois?
Ben, non seulement pour le commun des Québécois, mais il y a eu un bouquin qui a été écrit qui s'appelait « Fin de cycle »
d'un
Québécois hors du commun. Évidemment, quand on a la volonté politique de faire arriver des choses comme l'indépendance du Québec, on est toujours à l'affût des points de passage. Est-ce qu'il y a un point de passage? Est-ce qu'il y a une façon d'y arriver? Et en 2012, je croyais que c'était possible. Hein, c'était pas immédiat, mais si on franchissait un certain nombre d'étapes, il était pas impossible d'y penser. J'avais constaté que Pauline Marois était sensible à mes arguments et à la façon que, à l'époque, j'envisageais de faire en sorte d'y parvenir. Bon, ça n'a pas été le cas, mais quand même. Et aussi, il y avait la discussion en 2012, est-ce que je devrais être conseiller ou me présenter? Et là, il y a deux éléments qui ont milité en faveur de vraiment être candidat. Le premier, c'est que même quand j'étais conseiller de messieurs Parizeau et Bouchard, il y a des ministres et des députés qui trouvaient que j'en menais trop large. Et là, depuis, ma notoriété est encore plus grande et ça aurait été intenable d'être conseiller. Puis en plus, j'aime ça m'exprimer publiquement et ça aurait posé un problème. Je dis non, ça me prend une réelle légitimité. Il faut que je sois élu dans un comté. Et deuxièmement, là, on est à 5 ans du printemps érable, mais c'est quand même incroyable que Jean Charest avait organisé l'élection de septembre 2012 en mettant dans le calendrier qui déclenchait en août, et à la mi-août, il y avait le retour forcé en classe des grévistes qui, selon toute vraisemblance, allait se faire avec des affrontements avec les policiers. OK? Parce que la loi 78 est extrêmement dure. Et donc, il avait prévu que des affrontements et donc du sang versé dans le nez de quelques étudiants allaient l'aider à gagner l'élection. Et pour moi, c'était d'un cynisme absolu et cette personne-là ne méritait pas le respect. Et il fallait qu'on soit tous à faire du porte-à-porte, à être devant les micros pour que cet homme-là, Jean Charest, ne soit pas réélu parce que pour moi, il était le contraire de la politique au sens noble. Et je me serais pas pardonné d'être resté chez moi s'il avait fallu qu'il soit réélu, ce qui n'était pas impossible. Alors, donc, il y avait un appel de la morale politique aussi qui faisait en sorte qu'il fallait tous être au rendez-vous.
Alors, je vous déplace maintenant en 2015, quand vous devenez chef du Parti québécois. Alors, le chef du Parti québécois a une responsabilité immense. Chacun d'entre eux doit faire la promesse d'une manière ou de l'autre qu'il fera l'indépendance du Québec. Mmh. Alors, comment peut-on, alors que la conjoncture ne s'est pas vraiment améliorée pour la cause du Québec, comment peut-on porter cette responsabilité immense? Est-ce qu'il y a une espèce de grand écart, d'une certaine manière, entre les convictions et ce qui est possible d'appliquer dans les circonstances? Est-ce qu'il y a une tentation, quelquefois, du découragement? Ou est-ce que c'est étranger à votre personnalité dans l'action politique?
D'abord, c'est 2016. Hein? Je suis un tout nouveau chef du Parti québécois, à 3 mois à peine. Attendez, octobre, novembre, décembre, janvier, 4 mois. Ça fait
bien
4 mois bientôt. Donc, j'ai passé mes 100 jours. Non, écoutez, si je ne croyais pas que l'indépendance est faisable, je ne serais pas chef du Parti québécois. Et d'ailleurs, en disant, écoutez, la meilleure façon de ne pas la faire, c'est de se précipiter à proposer un référendum dès l'élection de 2018. Et pour moi, c'était une défaite assurée. C'était essentiel à mon argument. Laissez-nous un mandat de 2018 à 2022 pour redonner de l'épine dorsale à la nation, qui en a bien besoin parce qu'elle a été effritée par 15 ans de régime libéral antinational, de médiocrité, à mon avis, de rabaissement de l'horizon national. Donc, il nous faut 4 ans pour retrouver le tonus de la nation. Et en 2022, un engagement ferme, absolu, de demander le mandat de réaliser l'indépendance dans les 4 ans qui suivent. Et donc, ça nous oblige à préparer l'ensemble de notre travail pour arriver en 2022 avec une proposition qui n'a pas besoin d'être majoritaire. On a besoin d'une majorité parlementaire, mais pas d'une majorité dans les voix. Donc, c'est une marche supplémentaire vers la marche finale, espérons-nous, de 50% plus 1. Alors, c'est un plan de travail qui est exigeant, mais réaliste. Et si je n'y croyais pas, je ne serais pas là.
Un homme politique, enfin un homme en général, se dévoile aisément par ses admirations. Vous avez évoqué tantôt quelques admirations intellectuelles. Joseph Kessel, l'écrivain et aventurier, Albert Londres. Si je vous questionnais sur vos admirations politiques aussi, c'est-à-dire les grandes figures qui vous inspirent ou qui vous ont inspiré à certains moments de votre vie et encore aujourd'hui, lesquelles vous viendraient à l'esprit?
Écoutez, il y en a 3 ou 4 qui sont plus grands que nature, évidemment. Et le fil conducteur, c'est l'énorme volonté politique. Alors évidemment, De Gaulle, hein, qu'on a découvert à travers Jean Lacouture en particulier, cette trilogie formidable. Churchill qui est passé d'un parti à l'autre 2 fois, qui a une traversée du désert affreuse.
On l'a condamné souvent à mort politiquement.
Il était vraiment là, il est mort très souvent et qui était presque seul à voir venir la menace nazie dans les années 30 et qui finalement avait raison contre tous. Quand on regarde la résilience et le sacrifice du peuple britannique dans ces années où ils étaient seuls, l'Amérique n'était pas encore entrée en guerre, c'est extraordinaire que cet homme a symbolisé la résistance face à un désastre annoncé. Je veux dire, vous parliez de découragement tout à l'heure. Il y a des gens qui ont pu penser que c'en était fini,
oui, bien sûr.
De la Grande-Bretagne. Franklin Roosevelt, mais j'ai découvert sur le tard Theodore Roosevelt.
Ah oui?
Ah oui, il y a la trilogie de Stephen Ambrose sur Theodore Roosevelt, qui est ce premier président moderne qui franchit le 18e et le 19e siècle, qui invente l'intervention de l'État pour la santé et sécurité des travailleurs, qui détruit les premiers trusts du pétrole, etc., qui est un homme qui est à la fois un aventurier, un militaire, un impérialiste. Il y a des mauvais côtés. Quelqu'un qui qui participe à la découverte de l'Ouest. Je veux dire, il est dans sa cabane en bois rond, puis il y a des ours et des Indiens et tout ça, et qui devient un des premiers écologistes au monde, parce que c'est lui qui crée les premières réserves naturelles des États-Unis. Je veux dire, ce sont des hommes plus grands que nature. Là, il y a que des hommes, je suis désolé. Mais si vous me demandez en ce moment, dans mon panthéon, là, je dirais De Gaulle, Churchill, Theodore Roosevelt.
Et si je vous déplaçais au Québec un instant, alors vous me répondrez spontanément René Lévesque, probablement.
Et Jacques Parizeau, oui.
Et Lucien Bouchard. Mais si on laisse de côté ces grandes figures qui sont les grands chefs du Parti québécois et on embrasse l'histoire du Québec jusqu'au 19e siècle, est-ce qu'il y a certaines figures qui ressortent, selon vous, positivement d'une manière ou de l'autre, où notre histoire n'a pas permis un tel déploiement de grandeur?
Ben, c'est difficile parce que y a toujours une part d'ombre. Hein? On dirait ben, Papineau. Oui, mais Papineau, part d'ombre. Nelson, part d'ombre. Bon, tu sais, on retourne aux patriotes. Mais celui qui n'a pas de part d'ombre, c'est Champlain. Champlain, c'est le héros lumineux d'un bout à l'autre, et c'est le fondateur, et c'est celui qui arrive. Il est plus moderne que les modernes, il est plus respectueux des Premières Nations que n'importe quel des autres colonisateur sur l'ensemble du continent. Il a une vision de ce que doit être la société. Il a une vision... vraiment, là, moi, j'ai découvert Champlain dans le livre de l'Américain, là, Le rêve de Champlain, il y a quelques années. Exact. Et j'ai été époustouflé. Et tout le monde doit lire ça. Et ça fait plaisir de voir que l'histoire de notre nation s'appuie sur ce socle intellectuel, un homme de volonté, mais un homme de compréhension, un homme de dialogue, un homme de grande envergure.
Oui, et alors vous nommez Champlain. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que souvent aujourd'hui, on a tendance à écraser l'histoire de l'Amérique à travers une seule, comme si le Portugal, l'Espagne, les États-Unis ou la France avaient colonisé de la même manière. La figure de Champlain est tout à fait intéressante de ce point de vue. Je vous en suggère une autre qui est plus récente. Bon, plus récente, vous verrez. Je pense à Honoré Mercier, simplement. Ah. Est-ce que c'est une figure celui qu'on appelait longtemps le Grand Mercier, est-ce que c'est une figure que vous avez fréquentée d'une manière ou de l'autre?
Je ne le connais pas assez.
Ah, parce que c'est d'une certaine manière, c'est le premier grand nationaliste d'après la Confédération. Mmh. Je vous tourne maintenant vers les intellectuels, les écrivains, les historiens. Vous avez une culture à nul autre pareil parmi les personnages, les hommes qui, les femmes qui font de la politique aujourd'hui.
Je suis pas certain de ça.
J'aurais tendance à le croire, mais bon, peut-être je me trompe. Quoi qu'il en soit, est-ce que certains, vous avez parlé tantôt de Kessel, vous avez parlé d'Albert Londres, est-ce que certains écrivains, certains intellectuels, certains historiens, certains philosophes qui ont accompagné votre parcours intellectuel, votre parcours politique, votre cheminement?
Bon, comme je savais que vous alliez me poser la question, j'ai un peu réfléchi là-dessus, puis je m'aperçois qu'en fait, le roman a eu beaucoup plus de poids dans mon développement que l'essai.
Ce qui est une bonne chose, la littérature est formatrice des âmes.
Tout à fait. Mais alors, j'ai beaucoup lu, adolescent, Jack London. Alors, Jack London, c'est à la fois l'aventurier, l'Alaska, la ruée vers l'or, mais c'est à la fois un socialiste, anticapitaliste, ouvrier, polémiste, le talentueux. J'ai lu tout Jack London lorsque j'étais, je sais pas, au cégep, dans ce coin-là. Donc, ça m'a marqué à gauche, de façon très claire. Mm-hmm. J'ai lu aussi... j'ai beaucoup lu de science-fiction, donc Isaac Asimov dans Empire et Fondation invente une science qui n'existe pas, qui est la psychohistoire. Et à travers Empire et Fondation, il explique l'évolution des sociétés de l'âge de pierre au Moyen Âge jusqu'à la société moderne et le cycle, etc. Et je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai trouvé ça très formateur sur à la fois les contraintes de l'histoire et la capacité de faire évoluer l'histoire. Dans l'espace, ok. J'ai toujours beaucoup aimé la science-fiction, mais ça m'a, c'est comme si ça m'avait donné l'idée que on peut agir. Les choses ne sont pas statiques.
Encore une fois, un éloge de la volonté politique.
Exact. Et de la capacité de changement du monde.
Alors, vous dites Asimov, je vous suggère, on connaît quelquefois les grands classiques, appelons ça comme ça, Victor Hugo, Zola, Balzac, Stendhal. Est-ce que certains d'entre eux ont croisé votre route d'une manière ou de l'autre?
Oui, bon, j'ai lu du Zola, j'ai lu du Victor Hugo. Je peux pas dire, tu sais, bon, Germinal, etc. Je peux pas dire que ça m'a beaucoup formé. Ouais. Même Hemingway, j'ai lu du Hemingway. Je suis pas un fan d'Hemingway. C'est pas quelque chose dont je peux dire. Regardez, j'étais à Thetford Mines, j'ai vu Jean Duceppe jouer Mort d'un commis voyageur.
Ouais.
Ça m'a plus marqué que beaucoup de bouquins que j'ai vus parce que, pour moi, c'était peut-être une des premières fois où je voyais quelqu'un piégé dans une misère humaine où il n'y avait pas de solution. Parce que, bon, on est élevé dans les années 60, 70, tout a des solutions, tout finit bien, etc. Et là, on est pris. C'est comme les gens de ma génération, on a tous vu au beau dimanche. Alors, les beaux dimanches, pour les jeunes, là, le dimanche, c'était pas tout le monde en parle. C'était une grande émission où il y avait du théâtre, parfois de l'opéra, parfois de la symphonie, mais beaucoup de téléthéâtre. Et on avait présenté Des souris et des hommes, qui est encore une pièce, je pense que c'est Tennessee Williams,
oui, je sais pas.
Ça finit mal. C'est terrible. Hein? Et on avait présenté Othello. Et là, Othello, c'est quand même l'histoire de quelqu'un qui convainc par la seule force de la parole une autre personne de tuer son amoureuse, sans raison. Et moi, ça m'avait beaucoup frappé parce que je disais, il n'y a rien de vrai. Tout est dans la parole et la conviction. Et donc, ça peut être très, très dangereux, la parole.
Ah, mais bien sûr.
Et ça, c'était vraiment mon jeune esprit. J'ai dû voir ça à 14-15 ans. Ça, pour moi, c'était une découverte un peu ténébreuse de la capacité de manipulatrice de la parole.
Je parlais de figures importantes. Je vous poserai aussi la question sur les événements. C'est-à-dire, je ne sais pas pour vous, mais on a souvent la tentation de se projeter dans certains événements historiques, des périodes qui nous plaît. Je me rappelle, je vois très bien la réponse que certains peuvent nous faire en disant ma période préférée, c'est celle qui viendra. L'époque dans laquelle je voudrais vivre, c'est la prochaine.
Trop facile, c'est trop facile.
Mais voilà. Alors, est-ce qu'il y a certains événements historiques dans lesquels vous vous projetez naturellement en vous posant la question qu'aurais-je fait? Certaines périodes de l'histoire qui vous fascinent d'une manière ou de l'autre, et encore une fois dans laquelle vous dites mon Dieu, si j'avais vécu là, la vie aurait goûté quelque chose, aurait eu un sel particulier.
Ben, c'est sûr que les moments où il y a des ruptures historiques, les moments où tout devient possible, le meilleur et le pire sont les moments les plus captivants, puis je dis quelque chose que tous pourront dire. J'ai beaucoup lu sur la Révolution française, sur la Révolution bolchevique, sur la Révolution chinoise, sur la Révolution américaine, évidemment la Deuxième Guerre mondiale, qui est extraordinairement tragique et porteuse. Donc, ce sont ces événements, ces points d'inflexion majeurs de l'histoire qui m'intéressent, parce que dans ce moment où tout est fluide, la décision de quelques personnes peut faire changer le cours de l'histoire. Mais c'est la même chose pour... je me suis intéressé au discours. J'ai écrit des préfaces pour des recueils de discours. Puis quand on lit le discours de Martin Luther King, « I have a dream », on se rend compte que cette personne, par son ascendant politique, si elle avait prononcé un discours revanchard et guerrier, oui, aurait déclenché des émeutes. Donc, cette personne-là avait la capacité d'envenimer ou d'apaiser. Et son texte, tout le début de son texte, c'est un réquisitoire contre la discrimination, et la fin de son texte, c'est un appel à se trouver sur un plan plus élevé de réconciliation. Et donc, il y a des moments historiques où une seule personne peut faire une énorme différence pour le bien ou le mal.
Est-ce que vous parlez des discours? Est-ce que certains des discours que vous avez étudiés d'une manière ou de l'autre, certains d'entre eux, vous auriez aimé les prononcer, aimé les écrire d'une manière ou de l'autre? Quels sont les discours, autrement dit, qui vous ont le plus marqué, que vous trouvez qui se distinguent parmi les autres, parmi les grands moments de l'éloquence politique?
J'ai pas le désir de les avoir écrits, mais il y en a que j'aime beaucoup. Celui de Martin Luther King en est un. Un discours de Gandhi, un réquisitoire de Gandhi, alors qu'il est accusé de sédition. C'est génial parce que il n'est pas dans l'excès, il est dans la conviction et les principes. Il y a des moments là où la tonalité, le choix d'un argumentaire qui est plus vif ou plus doux, plus enveloppant ou plus agressant peut faire toute la différence. Mais il y en a tellement de discours. Il y a un discours devant la Société des Nations, ça c'est ce qui précédait l'ONU, ouais, qui était en Europe entre les deux guerres mondiales, et l'empereur d'Éthiopie qui vient d'être attaqué par... Oui, jeune, tout jeune, qui vient d'être attaqué par les troupes italiennes, va expliquer à la Société des Nations que si vous n'intervenez pas contre l'agresseur italien, ça pourrait se passer chez vous. Et il décrit ce qui va se passer dans la Deuxième Guerre mondiale. Et la force de ce discours-là, c'est que tout était dit, mais rien n'a été entendu.
Bien sûr. Et est-ce qu'on peut faire, selon vous, de la politique et faire de la politique efficacement sans avoir une conscience historique assez riche? Quelqu'un qui, est-ce que vous avez, d'une certaine manière, les comparaisons historiques qui peuvent venir à l'esprit à certains moments, les différentes comparaisons possibles dans une situation difficile, est-ce qu'on peut faire de la politique sans avoir une conscience historique ou d'une certaine manière, c'est possible néanmoins de bien jouer ses cartes en ayant une mémoire plus limitée?
Ben, il y en a qui le font, hein? Bon, moi, je trouve que ça fait partie de mon bagage. Ça faisait partie du bagage de M. Parizeau, de M. Lévesque, de Lucien Bouchard et de plusieurs autres. Parce que, qu'est-ce que c'est la politique? C'est d'essayer de modifier le cours des choses pour le bien commun dans un environnement de contraintes extrêmement lourdes. Puis dans le passé, il y a des choses qui ont été essayées qui n'ont pas marché, des choses qui ont été essayées qui ont marché selon les contextes. Et plus on en sait sur ce qui a marché puis ce qui n'a pas marché, mieux on peut choisir. Bon, en ce moment, par exemple, on discute de la convergence. Alors moi, ma petite expérience historique, c'est que Mario Dumont, qui était très différent de Jacques Parizeau et Lucien Bouchard, ont fait une convergence en 95 et ça a failli donner une majorité de oui. Et c'était des gens qui s'entendaient sur relativement peu de choses, qui avaient des personnalités différentes, qui avaient des objectifs politiques partisans différents, mais qui ont additionné. Et je prends souvent cet exemple pour dire aux péquistes, aux gens de Québec solidaire, aux autres, regardez, si eux ont pu le faire, pourquoi pas nous? Et c'est important parce qu'au Québec, on n'a pas la culture de la coalition. Bien sûr. Et donc, il y a une plus grande résistance à ça, c'est pas dans nos mœurs, mais pourtant, il le faut. Donc, d'avoir une conscience historique. Parfois, je donne l'exemple de François Mitterrand avec Georges Marchais, le chef du Parti communiste français, qui ont fait le programme commun. Ils se détestaient.
Chacun pensait manger l'autre, d'ailleurs.
Exact. Mais c'était pour le bien commun. Il fallait que la droite parte pour qu'il y ait des avancées pour le bien commun. Et finalement, bon, c'est Mitterrand qui a mangé Marchais. Mais c'était pas donné d'avance. Puis c'était très difficile à en faire la démonstration. Mais c'était indispensable.
Alors, Jean-François Lisée, nous allons passer à la pause pour quelques instants. Et au retour de la pause, je vous questionnerai aussi sur votre vision du Québec, de l'histoire du Québec et de l'avenir du Québec.
Très bien.
Radio VM, au cœur de l'essentiel.
Chers amis, nous sommes de retour à La Vie des idées avec notre invité bien particulier aujourd'hui, Jean-François Lisée, qui nous fait l'honneur de sa présence. Alors, nous avons passé la première demi-heure à discuter avec vous de vos admirations, des références historiques qui, d'une manière ou de l'autre, peuvent vous inspirer. Évidemment, je profiterai de votre présence ici pour vous questionner sur votre vision du Québec. Et je vous poserai une question toute simple, du moins j'en ai l'impression, tirée de votre discours de victoire à la direction du Parti québécois. Vous avez dit, j'espère ne pas citer trop maladroitement, que le peuple québécois est irréductible, que le peuple québécois, d'une certaine manière, est, je traduis, presque indestructible, qu'il est là, qu'il sera là pour longtemps et qu'il traversera l'histoire. Et quand je vous ai écouté à ce moment précis, je crois que j'ai eu un désaccord de fond avec vous, assez prononcé, parce que me semble-t-il que ce qui habite l'histoire de la pensée québécoise d'une manière ou d'autre, qu'on pense à François-Xavier Garneau, qu'on pense à Lionel Groulx, qu'on pense à Fernand Dumont, qu'on pense aux historiens de l'École de Montréal, qu'on pense à Léon Dillon, à Gérard Bergeron, c'est cette certitude que nous sommes une nation qui peut périr. Hein, vous connaissez la formule de Milan Kundera, qu'est-ce qu'une petite nation? C'est une nation qui sait qu'elle peut disparaître, qui a le sentiment de sa précarité existentielle. Alors, vous avais-je bien ou mal compris? Est-ce que vous avez vraiment au fond de vous-même cette conviction que le peuple québécois en Amérique est appelé à durer et que son existence n'est pas compromise?
C'est ma conviction profonde et c'est un instinct. C'est un instinct. Et je me dis, ça fait tellement longtemps qu'on dit qu'on va disparaître que normalement, on aurait dû disparaître depuis longtemps. Alors donc, face à toutes ces prévisions de disparition, le fait qu'on soit là montre bien qu'on est extraordinairement résilient. Alors, vous avez plus de culture que moi, alors vous allez me dire qui avait dit « à la fin, il ne restera que deux peuples, les Canadiens français et les Chinois ».
Toynbee
avait dit ça. Tocqueville avait dit quelque chose de semblable aussi, il me semble.
Enfin, il avait eu cette formule terrible sur nous en disant à notre contact que c'est avec nous qu'il a compris qu'il n'y a pas de plus grand malheur pour un peuple que d'être conquis.
Exact. Alors, je regarde, on a fait l'exercice pour des raisons d'argumentaire indépendantiste, l'économie québécoise en 95 et aujourd'hui, elle est superbement plus diversifiée, forte, innovante, investie dans l'économie du savoir qu'elle était en 95. Nos finances publiques sont meilleures, notre occupation du territoire sont meilleures. Avant que les libéraux détruisent les instruments régionaux, nos régions étaient en vitalisation. Et donc, on a une capacité de rebond malgré des traumatismes. Traumatisme de 80, le traumatisme de 95, et je ne parle pas des traumatismes de la conquête, de l'union forcée, etc. On est extraordinairement résilient dans la difficulté, et moi, je pense que cette résilience, elle est là pour longtemps. Est-ce qu'il y a des éléments qui doivent nous inquiéter? Absolument. Nous sommes une petite nation, Kundera a raison, il faut qu'une petite nation soit toujours inquiète, et donc qu'elle soit toujours prudente. Par exemple, moi, je considère que la politique d'immigration du Québec depuis 40 ans a été stupidement imprudente. C'est-à-dire que dans une situation où on est 2% de francophones en Amérique du Nord, on aurait dû, depuis le début, exiger la connaissance du français au point d'entrée de tous nos immigrants depuis René Lévesque. Ça n'a pas été fait. Bon, moi, pour la première fois, je propose qu'on le fasse. Très bien. Mais quand même, on a eu un sursaut historique important avec la loi 101 en 77. Avant la loi 101, 85% des enfants d'immigrants allaient à l'école anglaise. Maintenant, c'est le contraire. Là, on débat sur les marges, mais on l'a fait ça. Donc, nous sommes irréductibles, pas parce que intrinsèquement nous le sommes irréductibles parce que lorsque nous sommes en péril, nous avons la capacité de prendre les moyens nécessaires à assurer notre survie.
Jean Boutillette, qui a écrit un livre très important dans, début 70, si je ne me trompe pas, Le Canadien français et son double, disait qu'il y avait deux tentations qui traversaient d'une certaine manière le peuple québécois, la tentation de la vie, l'émancipation, mais aussi la tentation de la mort, disait-il. Puis il la décrivait comment? Il disait que cette culture, finalement, qui nous caractérise et qui nous porte, et que nous portons, certains finissent par la vivre comme un fardeau. C'est-à-dire, ce serait tellement plus simple si on parlait anglais en Amérique. Ce serait tellement plus simple si on cessait de porter une différence qui, quelquefois, pour certains, est vécue à la manière presque d'un ghetto, de quelque chose qui nous coupe du reste du monde, à tout le moins qui nous coupe de l'Amérique. Et j'ai l'impression, mais vous me corrigerez, à tout le moins je vous soumets l'hypothèse, que cette deux échecs référendaires, l'incapacité à se faire reconnaître dans le Canada, a réactivé peut-être dans une partie de notre population cette forme de lassitude existentielle, ce désir de mourir dans la dignité collectivement, cette tentation de la mort. Vous avez le sentiment que nous sommes irréductibles, c'est probablement ce qui explique une part de votre optimisme politique. Est-ce que néanmoins vous sentez dans la société québécoise quelque chose comme cette lassitude existentielle, ce désir d'en finir avec soi-même, ou est-ce là, simplement la peur de nationalistes exagérément portée par la peur de disparaître?
Ben, elle est très présente chez plusieurs intellectuels souverainistes
bien sûr,
qui, de façon cyclique, et c'est un cycle qui ne s'arrête jamais, écrivent sur le désir de mort, la lassitude culturelle, etc. Lâchez-nous avec ça! Ben, pourquoi est-ce que ces intellectuels sentent ça de façon si forte? Et récemment, Jacques Beauchemin, dans ce livre...
La
souveraineté en héritage. Très mauvais titre, très bon livre, mais extrêmement décourageant. Ben, c'est parce que c'est des gens qui sont très investis dans cette volonté et ne voyant pas arriver le soir de l'indépendance, en développent une douleur réelle. Bon, mais les gens ordinaires, là...
Qui ne pensent pas à l'indépendance
tous les jours. Ils ne pensent pas à l'indépendance tous les jours.
C'est un point de vue original sur la vie, mais ça existe.
C'est la majorité des gens. Ils se lèvent le matin, ils ont des enfants, ils ont des entreprises, ils vont travailler, ils veulent une meilleure vie pour eux. Ils vivent dans un Québec où la qualité de vie est grande, ils parlent français, ils voyagent. Pour eux, le Québec, c'est une réalité d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ils ne regardent pas les statistiques sur le déclin linguistique. Ils le voient dans le journal une fois de temps en temps. Ils votent aux élections selon leurs priorités. Ils ont une volonté identitaire qui est forte, hein, on le sait. Ils voient que, moi je dis toujours, trop d'identité comme Marine Le Pen ou Trump exclut, pas assez d'identité dilue. Il faut trouver le bon point d'équilibre, c'est ce que nous on propose, puis on sent qu'il y a un besoin parce qu'on est en déséquilibre identitaire en ce moment. Mais ils se sentent pas menacés, ils se sentent vivants. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de la nouvelle génération des moins de 40 ans aujourd'hui, sont pas engagés dans le destin national, peut-être, mais ils se sentent profondément québécois, ils se sentent pas canadiens du tout, et surtout, ils ne portent pas le fardeau du complexe d'infériorité que les générations précédentes avaient. Ce sont des gagnants. ils aiment pas les loups-jeux, ce sont des gagnants, puis pour eux, ils sont gagnants eux-mêmes. Le Québec peut gagner. Ils voient le Québec gagner aux Oscars, aux Césars, à Wimbledon, etc. Ils sont dans un monde où le Québec a des succès. Et moi, je pense que c'est très porteur parce que si on réussit à faire la jonction entre la promesse de succès qui serait un Québec indépendant et leur volonté de succès, on est dans une autre phase de notre histoire irréductible.
Question sur justement notre rapport à l'histoire. Alors, on dit souvent au Québec, avec raison, que la Révolution tranquille est un moment d'émancipation, de redressement, de libération, d'affranchissement. Et tout cela est très vrai. Quelquefois, on a présente aussi la période qui a précédé sous le signe de la Grande Noirceur. Et on a peut-être une tendance à disqualifier très sévèrement ce qu'on pourrait appeler globalement le passé canadien-français. Ce débat-là est un débat d'historien, mais pas seulement, parce que ça façonne la conscience historique de chacun. On a l'impression que notre Révolution française, à nous, c'est 1960. Dans cette espèce de querelle, comment est-ce que vous vous positionnez? Et si oui, comment vous vous positionnez-vous? C'est-à-dire, est-ce que vous croyez que les Québécois ont été trop sévères envers leur passé pré-révolutionnaire tranquille? Ou était-ce une sévérité nécessaire? Que peut-on faire de ce passé dont on ne sait trop quoi faire pour l'instant?
Ben, j'aimerais tellement vous faire plaisir, Mathieu, puis dire que je suis d'accord avec vous.
Oh, je ne m'y attendais pas, je ne m'y attendais pas.
Ben, écoutez, je pense que la sévérité est de mise, mais il est vrai que la société québécoise sous Duplessis, pour le nommer, s'est développée de façon importante. C'est industrialisé, c'est urbanisé, même. Bon, mais pour les niveaux d'éducation, c'est une catastrophe. Quand on se rend compte qu'en 60, donc après l'ère de Duplessis, le Québécois francophone de 25 ans avait moins d'années de scolarité dans le corps que le Noir américain de 25 ans. Ça, c'est la statistique qui tue, hein, qui tue le duplessisme, à mon avis.
Oh, mais je ne proposais pas un éloge du duplessisme, détrompez-vous. Je disais simplement qu'il y a de ce passé quelquefois qui apparaît sous le signe d'un héritage si encombrant qu'on doit s'en délivrer et qu'on doit faire recommencer tout en 1960.
Non, tout ne commence pas.
Ce n'est pas un éloge du duplessisme.
Non, tout ne commence pas en 60, mais c'est sûr qu'il y a un cap qui est passé et une libération des esprits, une libération des énergies. Et par exemple, ce qui est intéressant dans la déconfessionnalisation rapide après 60, c'est qu'elle démontre bien que la confessionnalisation forte d'avant 60 n'était pas si bien enracinée que ça, sinon elle ne serait pas disparue si vite. Donc, il y a eu un délitement, donc une augmentation de l'idée de liberté individuelle face à une Église qui était très englobante, enveloppante, qui a dû être un précurseur à cette libération affichée, désinhibée, qui a commencé en 60. Donc, c'est sûr que c'est un processus. Des gens diront, ben, tout ce qu'on a vu dans la Révolution tranquille était en germe dans les années 50 et 40, certainement. Et ce sont
Pourrait même dire que la Révolution tranquille a été pensée une première fois dans les années 20 et les années 30. La nationalisation de l'hydroélectricité,
exact.
L'État national, ce sont des idées qui viennent des années 20, bien souvent.
Exact. Mais on peut dire aussi que la Révolution tranquille aurait dû avoir lieu 30 ans avant et qu'elle a été confisquée par un homme, Duplessis, qui n'a pas appliqué le programme de l'alliance qu'il avait fait avec les déserteurs du Parti libéral. Et que donc, on parle de la capacité d'un homme seul dans un contexte X de faire le bien ou le mal. Si Duplessis avait décidé d'être fidèle à son programme commun, on aurait pu vivre une révolution tranquille beaucoup plus tôt et on serait déjà souverain depuis 20 ans.
C'est agréable de réécrire.
Je tire une confusion un peu échevelée. Mais
on pourrait, oui, bien sûr. Mais je vous relance néanmoins sur l'histoire parce que c'est une question assez importante. On constate aujourd'hui, et ça c'est très visible, c'est peut-être l'effet des nouveaux cours d'histoire, le développement d'une mauvaise conscience très forte, par exemple dans les jeunes générations, qui ne se racontent plus, par exemple, la Nouvelle-France à la manière d'un récit, bon, comme toute chose humaine lumineuse et enténébrée, mais à la manière d'un récit de vol de territoire, de vol de, peu comme si d'une certaine manière les Français s'étaient comportés comme les Portugais, les Espagnols, un peu d'une certaine manière comme si dès l'origine de la nation, il y avait quelque chose comme un crime originel qu'on devrait encore payer aujourd'hui. Mmh. On sent aujourd'hui dans la jeune génération, dans quelquefois sa critique très vive du nationalisme, qu'elle est alimentée par cette mauvaise conscience. Est-ce que vous constatez aussi la présence de cette mauvaise conscience et que retenez-vous de cette espèce de tentation pénitentielle qui traverse quelquefois le discours public au Québec?
Ben, c'est pas singulier au Québec. On le voit
partout.
On le voit partout en Occident et je pense que bon, il y avait une version héroïque du récit historique jusque dans les années 80. le pendule est allé dans l'autre sens complètement. Bon, c'est le temps de retrouver un juste équilibre et je pense que le programme d'histoire qui a été proposé lorsqu'on était au gouvernement, qui est en train d'être implanté petit à petit en secondaire 3 et 4, retrouve cet équilibre. Bon, vous savez que nous sommes favorables à inscrire un cours d'histoire obligatoire au cégep aussi, ce qui avait été aboli dans les 6 premiers jours du gouvernement Couillard, ce qui va être réintroduit dans les 6 premiers jours d'un gouvernement du Parti québécois l'an prochain. Et donc, pour nous, l'histoire est importante. L'histoire est importante avec ses points de beauté et ses verrues. Mais effectivement, s'il y a un récit national qui est fondé sur le respect mutuel, c'est celui du Québec entre Champlain et les Premières Nations. Et donc, il n'y a pas de vol de territoire ici. Ensuite, il y a du mauvais traitement des Premières Nations, mais certainement dans toute la première période, les francophones, les Français au Québec, ce sont les alliés des Premières Nations, les plus grands alliés des Premières Nations de tous les Européens. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, qu'il faut se fonder lorsque on regarde le présent et l'avenir. Et donc, oui, il y a un rétablissement à faire, et je pense que le récit national doit être connu de tous, discuté par tous, et à chaque génération, on va continuer à débattre. Est-ce que Papineau s'est sauvé, s'est pas sauvé? Quelle était la signification de ceci et cela? Mais on en débat parce qu'on le possède, parce qu'il fait partie de nous, parce qu'il prépare la suite des choses. Puis on peut avoir un regard cynique sur l'histoire. Les gens qui disent, savez-vous pourquoi il faut savoir exactement d'où on vient? Parce qu'on veut surtout pas y retourner.
Oui, bien sûr.
Bon, ben on peut dire ça si on veut, mais c'est sûr. Et l'histoire n'est pas une flèche continue. Ça peut, elle peut prendre des détours, mais il y a toujours. Nous sommes la somme de tout ce qu'on a vécu sur le territoire depuis plus de 400 ans et nous préparons la suite. Alors, pour moi, la connaissance historique est importante. Et cette année, le 150e anniversaire
de la Confédération,
ben oui, j'ai insisté pour qu'on ait cette opération, l'autre 150e. Et je peux vous dire qu'en ce moment, il y a plus de gens, en particulier de moins de 40 ans, qui apprennent l'histoire du Québec et du Canada à travers la production hebdomadaire de clips, d'historiens, de tout ça, que de gens qui vont sur le site du gouvernement canadien en français sur le 150e. On a en ce moment un impact plus grand sur la connaissance historique que le gouvernement canadien lui-même.
J'aimerais, puisqu'il nous reste à peu près une quinzaine de minutes au maximum, vous questionner sur certains des grands enjeux contemporains, la manière dont les souverainistes québécois, sous votre direction, s'y inscrivent. On a longtemps parlé, pendant une quinzaine d'années, de la mondialisation heureuse. C'était la formule d'Alain Minc, c'était « nous allions dans un monde où les frontières tomberaient, où les identités nationales se dilueraient peu à peu, où le collectif se morcellerait pour permettre une espèce de composition de la citoyenneté à travers les droits individuels en perpétuelle expansion. Et aujourd'hui, ce récit de la mondialisation heureuse semble à tout le moins fragilisé dans le monde occidental. Certains s'y tiennent, Emmanuel Macron en France en est un exemple, mais on peut dire que globalement, des événements aussi contrasté que Trump aux États-Unis, mais le Brexit, qui est autrement plus complexe et intéressant en Grande-Bretagne, que la question de la nation qui perce un peu partout en Europe, qu'on assiste peut-être à la fin du récit de la mondialisation heureuse. Les souverainistes québécois avaient adhéré au récit de la mondialisation heureuse. C'était le discours d'un Jacques Parizeau qui disait « une bouteille à la mer, l'indépendance dans le cadre de la mondialisation, ça peut se faire encore plus facilement. La mondialisation aide la souveraineté. La mondialisation aide notre mouvement comme jamais. » Eh bien, est-ce qu'on peut dire que la crise de la mondialisation peut aussi aider le projet souverainiste? Est-ce que nous sommes capables, comme mouvement politique, les souverainistes, de nous adapter à ce contexte de retour des nations, des frontières, des identités, même si tout ne se fait pas toujours de la plus belle manière?
Ben, c'est clair que dans le projet indépendantiste, il y a la création d'un État national, donc d'une présence singulière dans la mondialisation. Et d'ailleurs, les tenants de la mondialisation ont toujours dit « ben non, on est en train de défaire les frontières, on veut pas une frontière de plus ». Alors nous, on a toujours dit « on veut une frontière de plus ». Donc on a toujours été du côté des souverainistes. Et on parle aujourd'hui de cette mondialisation qui est en train d'être sur la défensive. Ben, les Européens ont toujours dit non à la dilution de leur nation à l'intérieur de l'Union européenne. Ils voulaient bien coopérer, ils ne voulaient pas disparaître. Et c'est parce que les politiques ont refusé les verdicts populaires, que ce soit sur Maastricht ou sur la Constitution européenne, que s'est développé un mouvement eurosceptique. Mais l'euroscepticisme, c'est simplement la manifestation de la volonté démocratique des gens de dire, bon, on Bien sûr, on fait partie du monde, on veut avoir un marché commun, peut-être même une monnaie commune, mais nous sommes des nations. C'est à l'intérieur de la nation que nous avons notre délibération, notre histoire, notre avenir. Et puis ensuite, on va se parler les uns les autres. Donc finalement, le mouvement indépendantiste québécois a toujours été à ce diapason-là parce qu'on voulait créer une nation indépendante, ce qu'on veut toujours faire. Jacques Parizeau avait raison de dire que le libre-échange avec les États-Unis allait aider l'économie du Québec. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde qui a gagné entre le Mexique, les États-Unis et le Québec, ou le Canada, mais en tout cas pour le Québec, sur le libre-échange américain, c'est nous. Au Québec, c'est très clair. On a eu une explosion de nos exportations. Des PME sur tout le territoire se sont développées. On est passé de moyennes entreprises à géants internationaux. C'est grâce à ça, entre autres choses, et à notre capacité, notre inventivité. Mais ça a aussi fait ce que Jacques Parizeau voulait, décanadianiser l'économie québécoise. Avant, les deux tiers de notre production étaient exportés au Canada. Maintenant, les deux tiers sont exportés aux États-Unis, sans compter le reste du monde. Et donc, effectivement, on s'est comme libéré économiquement du Canada grâce à ça. M. Parizeau était très content de ça. Maintenant, les nouveaux accords de libre-échange, ils vont plus loin que la simple fluidité des produits. On entre dans des zones qui vont au cœur de la souveraineté nationale, la propriété intellectuelle, l'organisation des services publics. Et là, il y a un moment où la réponse est simplement non. Non. Et d'ailleurs, le grand désastre de la mondialisation ces 20 dernières années, c'est la déréglementation financière à l'intérieur des États et de façon internationale qui a créé des crises financières majeures. Et donc, des centaines de millions de personnes ont été appauvries à cause de ça. Heureusement, à cause du conservatisme, un mot que vous aimez bien, Mathieu, du conservatisme canadien en matière de régulation financière et du coopératisme québécois, on a été, pour l'essentiel, épargné parce qu'on n'est pas entré dans la déréglementation. Alors, avoir dit non à cette forme de mondialisation-là, c'était la bonne réponse. Et là où on en est, je pense que la réponse doit être non plus souvent que oui, parce qu'on entre dans des zones qui sont trop proches de la capacité des nations de prendre des décisions qui peuvent être différentes de celles de leurs voisins, ni meilleures ni pires, mais plus adaptées à leurs valeurs, leurs sentiments, leurs priorités.
Pardonnez-moi. On entend souvent, néanmoins, puis ce discours est encore présent au Québec d'une manière ou de l'autre. Il est même assez souvent administré aux indépendantistes que l'indépendance est inévitablement repli. L'indépendance est inévitablement fermeture à l'autre. Donc, une forme de culpabilisation identitaire de la volonté de se gouverner soi-même. Est-ce que vous trouvez que ce discours a quand même eu des effets dans la population qui en est venu à faire cette espèce d'association souveraineté égale repli identitaire, souveraineté égale enfermement sur soi et ainsi de suite. Est-ce que vous trouvez que cette espèce de culpabilisation du sentiment national qui, on pourrait dire, était très présente depuis le référendum de 95, est-ce que vous trouvez que ça a eu un effet? Et si oui, est-ce que vous devez travailler à rebâtir la légitimité du sentiment national dans la conscience populaire?
C'est sûr qu'il y a des preneurs. Il y a des preneurs parce qu'il y a des bons vendeurs. Pierre Trudeau et Justin Trudeau, à leur manière, sont des conquérants. On vient de Montréal, on va conquérir le Canada, on va conquérir le monde, donc pourquoi s'encombrer d'une frontière supplémentaire? Et c'était ça la promesse de Pierre Trudeau, on va conquérir. Puis là, on se rend compte, qu'est-ce que vous avez conquis exactement? Le Québec n'est pas mieux qu'avant, vous avez réduit nos pouvoirs, il y a une constitution dans laquelle on ne se reconnaît pas, le multiculturalisme pour nous, c'est pas une conquête. Et en fait, le fait français au Canada anglais, lui est en réel déclin alors que vous aviez promis l'inverse. Mais il y a quand même, en termes de mise en marché, il y a quand même là quelque chose qui semble positif. Il est certain que la promesse de l'indépendance, c'est la promesse d'exister en tant que personnalité qui n'a de permission à demander à personne. Et c'est cette idée de responsabilité totale qui est plus exigeante que cette promesse de conquête que d'autres, finalement, vont faire à notre place, où on va se mettre dans le sillage de quelqu'un d'autre. C'est drôle parce que cette image-là est moins exigeante que celle de dire non. Nous allons d'abord conquérir notre propre responsabilité, nous allons être présents au monde. Mais je dois vous dire que j'étais à Dawson vendredi dernier et un jeune anglophone me demande « Mais pourquoi est-ce que moi, un anglo-montréalais, je devrais être pour l'indépendance? » Ben, j'ai dit d'abord parce que ça va être fantastique d'être le fondateur d'un nouveau pays. Donc, pour un jeune, de créer quelque chose de neuf, c'est quelque chose. Mais entre autres, pourquoi? Je dis, Monsieur Justin Trudeau, là, son rôle principal en économie, c'est d'amener le pétrole le plus polluant au monde au marché pour qu'il soit brûlé. Et si ce pétrole-là était entièrement brûlé, le réchauffement planétaire deviendrait irréversible. Maintenant, dans un Québec indépendant, notre rôle dans le monde, ce serait de participer à la coalition des nations qui veulent empêcher le réchauffement planétaire. Il me semble que c'est pas mal plus intéressant. Puis là, je fais juste te projeter à l'extérieur, sans même te dire, ben ici, on a une expérience nord-américaine singulière, une économie de PME, des gens qui sont centrés sur la qualité de la vie, sur l'importance des familles et des enfants, sur une certaine idée de...
Et vous sentez que ce discours est capable de gagner l'appui des jeunes issus de la communauté anglophone et des communautés culturelles?
Tous, non. Certain nombre, oui. Le plus possible.
Alors, vous devez, évidemment, vous êtes chef politique, vous devez rassembler des gens de différentes tendances, de différentes communautés même au Québec, pour arriver au pouvoir et ensuite réaliser vos objectifs. Une des grandes questions qui caractérise votre mandat, c'est la fameuse question de la convergence. Mm-hmm. C'est-à-dire, comment rassembler... il y avait traditionnellement deux grands partis au Québec, le Parti libéral et le Parti québécois. Il pouvait avoir un tiers parti. Il y a eu les créditistes, il y a eu l'Union nationale dans ces derniers moments, les créditistes, l'Action démocratique... Cette situation ne tient plus. Le vote francophone est non seulement éclaté, mais le vote nationaliste est éclaté. On pourrait dire le souverainisme nationaliste et de centre-gauche est au Parti québécois, le souverainisme post-national et de gauche radicale est à QS, et le souverainisme de centre... pas souverainiste, le nationaliste de centre-droit se retrouve dans une CAQ qui, par ailleurs, ne se réclame pas du souverainisme de quelque manière que ce soit. Les électeurs, ma question ne vous surprendra pas, les électeurs qu'on pourrait dire plus conservateurs, plus au centre-droit, qui se sont sentis d'une manière ou de l'autre abandonnés ou largués ou reniés par le Parti québécois depuis une quinzaine d'années. Est-ce que vous croyez qu'il est possible, donc vous faites votre ouverture à Québec solidaire, est-ce qu'il est possible aussi de faire au même moment une ouverture à ceux qui sont de l'autre côté du spectre politique, mais qui se réclament aussi du principe du Québec d'abord et de la fidélité au Québec? Comment réussir ce grand écart pour reconstruire le Parti québécois qui autrefois rassemblait Jean Garon et Louis Arel?
Exact. C'est indispensable. Et donc, c'est sûr que ben moi, ça tombe bien parce que il y a des thèmes qui me sont extrêmement chers, qui sont aussi chers aux électeurs de la CAQ. Alors, je dis oui, je veux additionner organisationnellement avec Québec solidaire, qui est une force politique avec laquelle on pourrait additionner puis prendre des comtés aux libéraux, surtout dans la région de Montréal. Mais c'est certain que je veux que des électeurs de la CAQ viennent au Parti québécois. Et il y a des thèmes qui sont transversaux. Bon, le nationalisme économique... qui est un thème sur lequel on est très, très actif, c'est un thème qui est transversal. Moi, je suis le fils d'un entrepreneur, et pour moi, priorité PME d'un gouvernement du Parti québécois en 2018, c'est essentiel sur un certain nombre de niveaux. J'ai créé une unité avec trois de mes députés qui sont des entrepreneurs pour faire en sorte d'avoir une proposition robuste sur ces questions-là. Je fais une tournée de chambre de commerce, donc je parle de ces questions-là. Les familles du 4-5-0, c'est important. En ce moment, nous sommes les premiers et les seuls à dire, écoutez, c'est bien le réseau électrique métropolitain, là, mais si ça veut dire qu'une famille de Châteauguay va payer 73 $ de plus par année pour financer les profits de la Caisse de dépôt, juste les profits, c'est un problème. Alors, on est sur ces thèmes-là aussi. J'ai voulu que Catherine Fournier, qui est notre nouvelle députée de Marie-Victorin, est le dossier des consommateurs, parce que je me souviens que René Lévesque, c'était très important, Lise Payette avait ce dossier-là. Je pense qu'il faut redevenir le porte-parole des consommateurs aussi pour faire une différence dans la vie quotidienne des gens. Ce sont tous des thèmes auxquels je tiens, auxquels nous tenons, mais nous savons aussi que l'impact, c'est que des électeurs de la CAQ vont se reconnaître là-dedans. Et oui, je cherche mon Rodrigue Biron, je cherche mon Jean Garon, je veux avoir à l'intérieur de l'équipe du Parti québécois des gens qui sont de centre-droit, indépendantistes, qui vont travailler avec nous, comme c'est le cas depuis le début du Parti québécois, mais auxquels des gens comme vous, Mathieu, allez dire, ben lui, je peux lui parler, il est plus proche de ma vision des choses, et cette coalition-là, elle est indispensable.
Vous touchez des questions économiques, vous touchez des questions, les familles. Je vous amène sur une question qui est peut-être la question conservatrice par excellence, bien qu'on ne le dit pas comme telle souvent, il nous reste quelques instants, 3 minutes, je crois, c'est la question de l'école. Il n'y a pas au Québec, et heureusement pourrait-on dire, de mouvement conservateur social à l'américaine, qui veut en gros dire aux gens quoi faire de leur vie. Mais il y a, me semble-t-il, une forme de conservatisme pragmatisme culturel, c'est-à-dire une méfiance envers, par exemple, les innovations pédagogiques qui ont pu déconstruire et même saboter l'école depuis longtemps. Il y a une méfiance envers, vous savez, cette espèce de politiquement correct obligatoire qui peut quelquefois étouffer la parole publique ou à tout le moins cadenasser la parole dans les médias. Est-ce que vous sentez ce conservatisme culturel autour de la question de l'école, par exemple la critique de la réforme scolaire, la critique du cours ECR, la volonté de revenir à une école qui, plutôt que de nous apprendre des compétences transversales, après la lire, écrire, compter, connaître l'histoire, connaître la géographie, ainsi de suite, est-ce que vous voyez dans ce thème-là un thème qui est, vous l'appellerez peut-être pas conservateur, mais certainement un thème porteur pour rejoindre une partie de l'électorat qui sent que le monde est un peu déréglé lorsqu'il est question de transmission culturelle?
Moi, je m'y suis associé depuis très longtemps. Je suis un critique du cours éthique et culture religieuse. Je veux le remplacer par un cours de citoyenneté où on va apprendre également les notions de démocratie, de vivre ensemble, bien sûr, mais aussi d'économie et de tout ce que ça prend pour vivre ensemble, et même de pouvoir résister aux radicalisations. Avec Normand Baillargeon, j'ai eu l'honneur que Normand Baillargeon m'a aidé à faire ma plateforme en éducation. Puis vous savez que c'est le plus grand résistant contre toutes ces réformes transversales,
oui,
etc.
Oui, oui. C'est l'anarchiste le plus conservateur du Québec.
Exact. Et donc, moi, je m'identifie à ce courant-là. Et c'est clair qu'il faut... Moi, je ne veux pas faire de grandes réformes. Je veux m'attacher à la réussite des garçons, par exemple. Oui. Donc ça, c'est un non-dit aussi. Moi, j'en parle ouvertement. Les garçons ont moins de succès que les filles. C'est un écart qu'il faut résorber, comme les autres écarts. C'est important. Alors, on a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Et oui, la revalorisation de l'enseignant est une clé pour la suite.
Qui n'est pas qu'un accompagnant, mais qui est une figure d'autorité légitime.
Qui est une figure d'autorité légitime. Donc, il faut que cette figure soit neutre. Ça, c'est une chose. Il faut que cette figure soit valorisée par la société. Donc, une proposition que je fais d'augmenter le temps de formation par une maîtrise qualifiante augmenterait leur formation, d'une part, et augmenterait leur salaire de 10 % d'autre part, pour chaque nouvelle cohorte. C'est déjà ça de prix. Et je pense qu'il faut beaucoup mieux valoriser l'enseignant dans notre société pour lui redonner sa place au centre de notre système d'éducation.
Eh bien, Jean-François Lisée, nous arrivons à la fin de l'émission. Je vous remercie infiniment pour votre présence ici aujourd'hui. Je me permets une question finale à laquelle vous répondrez par oui, par non. Est-ce que c'est Jean-François Lisée qui, finalement, va réussir à faire l'indépendance du Québec?
Avec beaucoup de monde, oui, j'espère.
Mon Dieu. Alors, espérons-le avec vous. Jean-François Lisée, merci infiniment pour votre présence ici aujourd'hui.
Merci de l'invitation.
Et chers auditeurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vie des idées. Merci infiniment.